c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Chute, on écoute la télé. Avec Mazagran Immobilier, la Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels et une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est 4 agences sur les 2 Charentes à votre service. Angoulême, Barbezieux, Villebois-Lavalette, Saint-Genis-de-Saint-Onge et sur mazagran-immobilier.com.
Chut, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Attitude.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chute on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude. J'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chute on écoute la télé, le talk show radio.
Allez, au sommaire, aujourd'hui on va consacrer notre coup de cœur ciné au film Un Petit Miracle. Sophie Boudre et Jonathan Zakaï sont nos invités exceptionnels pour en parler. Le film vient de sortir en salle, je vous le conseille, on en parle dans une poignée de secondes. Nos coups de cœur télé consacrés à la vie, l'amour tout de suite. Le film d'M6 diffusé demain soir avec une soirée spéciale consacrée à la mucoviscidose. Nous aurons le plaisir de recevoir le réalisateur Nicolas Cuche, accompagné d'Anne-Marie Vin, Louis Durand, Sandy Afioni et également Anna Biolay, toute une partie d'équipe sera avec nous pour une grande spéciale. Il était interprète de Léo Castelli dans Plus belle la vie et sera au théâtre à partir de mercredi. Pierre Marteau sera notre invité exceptionnel pour en parler. Mazarine Pinjot également sera notre invité après avoir été invité dans les grands entretiens d'LCPA. Se retrouve de l'autre côté de la barrière. Et ce coup-là, c'est elle qui va interviewer avec un sujet d'actualité. On vous dit ça tout à l'heure. Et puis en fin d'émission, nous aurons le grand plaisir de retracer le parcours d'Enola et Louis dans la Star Academy. Ils seront avec nous pour nous parler évidemment de ce parcours, mais également de leur projet. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et notre coup de cœur ciné aujourd'hui consacré à un bien joli film qui vient de sortir dans les salles. Ça s'appelle Un Petit Miracle et il porte très très bien son nom. Sophie Boudre, la réalisatrice, est avec nous. Bonjour Sophie.
Bonjour, merci de nous inviter.
Merci d'être avec nous. Il était l'homme de nos vies il y a quelques mois. Il était déjà dans Chute, on écoute la télé. Au mois d'octobre, il est de retour. Jonathan Zakaï. Bonjour Jonathan.
Ben rebonjour. Hein. On se lâche plus là.
On se lâche plus cette saison. Hein. T'as vu. Hein. Il y a des fois, on se croise pas de la saison et là, 2-3 fois. C'est génial.
Ouais. Non, c'est un plaisir d'être là. Et écoute, je suis très heureux de représenter ce beau film là que j'ai beaucoup de plaisir à tourner et à découvrir.
Ça m'étonne pas, parce que franchement, on a passé un moment merveilleux en allant voir ce film. C'est un peu un choc des générations. Et à la fois, voilà, on se retrouve dans une histoire d'école qui brûle et ils vont devoir trouver refuge, justement, et bien, dans une maison pour personnes âgées du coin. Et il va y avoir la magie qui va opérer entre cette ancienne génération et la nouvelle et ses enfants et ses personnes âgées qu'en fait, ça va égayer. Et on se demande pourquoi ça existe pas plus et pourquoi ça existe pas vraiment, ce genre de situation.
Ça commence à exister de plus en plus parce qu'ils sont aperçus que de réinjecter de la jeunesse chez des anciens, ça redonne de la vie. Et ils sont en train vraiment de mettre des structures pour que des crèches soient intégrées dans des maisons de retraite. Ça commence à cartonner.
Alors, il y a pas mal d'amis dans ce casting. Hein. Je pense à Michel Cremades qui nous avait parlé de ce film il y a déjà quelques mois, qu'on adore, mais il y a un casting incroyable. Et les jeunes enfants, c'est pareil. Combien il a fallu casser l'enfant, Sophie, pour arriver à trouver ses pépites, en tout cas?
350. J'en ai vu beaucoup. Je les ai beaucoup vus et revus et re-revus et re-revus. Parce que les enfants, ils sont quand même très, ils ont des changements d'humeur et il faut savoir sur qui on tombe et casser les bons enfants, parce que quand on part sur 2 mois et demi de tournage sur des premiers films pour des enfants entre 6 et 9 ans, il faut pas se planter. Ils ont été étonnants, vraiment étonnants.
Jonathan, alors toi tu joues le directeur justement de, comment on appelle ça, un EHPAD ou pas? C'est pas vraiment un EHPAD, c'est une maison de retraite. Toi tu joues le directeur qui voit pas très bien d'un bon œil l'arrivée de l'institutrice incarnée par Alice Paul et de ses enfants, et qui petit à petit, ton personnage évolue. Il est à la base très processé procédurier, très, on va dire, garde-fou de toutes ces procédures qui vont un peu voler en éclats à un moment donné devant l'humanité, en fait.
Oui, c'est vrai. C'est assez réaliste par rapport au directeur d'EHPAD. Je veux dire, il a surtout beaucoup de problèmes déjà lui-même. Il est dépassé.
À gérer, oui.
Il est déjà dépassé chez lui avec ses pensionnaires, ses habitants. Donc, quand en plus on lui propose une nouveauté avec des enfants partout, les miasmes, le truc, le show, c'est la panique pour lui. C'est double panique et donc il a du mal à se laisser convaincre. Et puis évidemment, c'est vrai que c'est une magie. Comme disait Sophie, c'est vrai qu'on a vu. Moi, j'ai d'ailleurs vu. J'avais jamais vu les images de reportage de vraiment les enfants maintenant qui sont intégrés, machin. C'est marrant. Ça m'a fait tellement penser au film. Je me suis dit, on a vraiment réussi le film parce que la joie qu'on voyait chez ces personnes âgées de découvrir ses enfants, les échanges qu'il y avait en vrai dans la réalité, qu'on retrouve dans le film et qui sont tellement joyeux, qui font du film une comédie, mais une comédie vivante et tellement finalement pas loin du réel, quoi. J'étais très touché de découvrir à quel point les vraies images étaient à l'image du film, quoi. Donc voilà, je crois qu'on a fait un film de aussi, c'est un film d'espoir parce que c'est vrai que même je voyais, j'ai un ami à moi qui, dont la mère a Alzheimer, qui est évidemment touchée par le personnage de Madeleine, parce que donc il y a aussi beaucoup d'émotions pour certaines personnes qui reconnaissent des proches, et donc voilà, il y a beaucoup de choses.
Le personnage de Madeleine m'a beaucoup ému aussi. Elle jouait d'ailleurs la maman de Rocha dans Plus belle la vie. Et elle est incroyable, cette comédienne. Qu'on ce qu'on l'aime.
Anne-Marie Ponzo, elle est fantastique. Elle est remplie de naïveté. On dirait vraiment une petite fille. Et c'est une actrice admirable. Avec les enfants, elle a été fantastique. Parce qu'elle t'a embarqué tout ça. Elle avait beaucoup de scènes avec les seule avec les mômes. Et elle est démente.
Elle fait passer des émotions assez incroyables, en tout cas à l'écran. C'est ce qui t'a plu en premier, justement, Jonathan, toi, dans le scénario, dans cette histoire.
Oui, c'était d'abord la rencontre avec Sophie parce qu'elle a un enthousiasme. J'ai l'impression, que j'ai envie de dire presque, qu'on voyait déjà l'humeur du film dans la rencontre avec elle et avec sa personnalité. Je savais que ça allait être très vivant et qu'elle allait, elle aime les enfants vraiment. Et puis c'était une vraie belle histoire avec un fond social quand même, sans être lourd. Et ce fond social qui est aussi la réalité qu'elle assume aussi dans cette comédie. Moi, j'aime bien les comédies qui assument le réel mais sans le rendre pesant. Je trouve qu'on est quand même dans une période où on a beaucoup de films qui parlent des choses avec beaucoup de réalisme et c'est très bien. Et que parfois on a besoin, comme les Anglais le font beaucoup plus qu'en France, de parler avec légèreté de choses concrètes.
Sans être moralisateur.
Exactement. On va écouter la bande-annonce, ça s'appelle Un petit miracle. Il est dans tous les bons cinémas. Allez le voir, foncez le voir. La première semaine, on le dit hein, souvent, est très très importante pour tous les réalisateurs et les comédiens. C'est là que ça se joue les deux premières semaines en gros. Donc allez voir, foncez-y. Voici la bande-annonce pour vous donner envie.
Il va y avoir de l'action.
Oh, bonjour.
Il y a un nouvel atelier. Elle est affreuse, ta maison.
Mais arrête.
Là, je vois au moins 12 violations d'hygiène et de sécurité. Non, ne bois pas ça.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est Anna et Rebecca qui ont gentiment accepté d'être des fleurs.
On se calme. Vous êtes censés donner l'exemple.
Faut les faire revenir, sinon on va crever le petit feu.
Je croyais que vous voyez qu'on vous laisse tranquille.
J'ai changé d'avis, j'ai envie qu'on m'emmerde.
Un petit miracle, c'est le film à ne pas manquer. Sophie Baudret et Jonathan Zakaï sont avec nous aujourd'hui pour en parler. On va essayer d'arriver sur vos plus beaux souvenirs de tournage que j'aimerais évoquer avec vous. Alors on va évoquer du côté derrière la caméra pour commencer, parce que je suis sûr qu'il y a eu plein de moments de grâce dans ces rencontres et dans ce choc des générations qu'on découvre dans le film.
Moi, c'est quand je voyais sincèrement arriver les enfants le matin, parce qu'il y avait une espèce de petite ritournelle où ils venaient comme une petite armée, les uns derrière les autres en chantant. Et avec un petit mimétisme physique, et ils défilaient dans les pads avant d'aller sur le plateau, et ils avaient une telle banane que c'était très contagieux.
Le décor est très beau aussi.
Alors le décor est incroyable. On a eu beaucoup de chance, que j'ai fait pas mal de repérages. Je suis arrivé à un moment donné sur cette vieille bâtisse, qui est une bâtisse qui normalement est plutôt quelque chose d'associatif où il se passe rien, et le champ contre champ, parce que l'aqueduc existe vraiment, on l'a pas réincrusté, et mon chef décorateur a fait un travail admirable pour que ça soit un peu aux normes d'une maison de retraite, des normes un peu loufoques, mais quand même, je voulais pas que ça sente trop le médical non plus.
Meilleur souvenir pour toi, Jonathan ?
Je me dis que le meilleur souvenir, je crois vraiment que c'est quand Eddie danse avec la jeune fille avec qui il a cette complicité. En fait, j'ai découvert sur le plateau cette scène, ils dansaient ensemble et je me suis fait avoir par l'émotion en live, en fait. Le voir cet homme, voilà, Eddie, cette petite fille avec lui qui danse, je sais pas, c'était tellement joli, vraiment, je dois dire que c'était vraiment un vrai moment d'émotion sur place qui retranscrit dans le film. Et déjà sur place, il y avait un truc qui se passait, quoi, d'émotion.
Des moments de grâce, ça, on appelle ça.
Surtout faire danser Eddie sur Michel Thor, parce que c'est quand même pas dans ses habitudes de danser des slows sur Michel Thor, mais on y est arrivé.
On peut citer un peu toute une partie du casting, Sophie?
Oui. Eh ben alors Jonathan, Zakai évidemment, Alice Paul, Eddie Mitchell, Émilie Gavoy-Kahn qui est l'infirmière de l'EHPAD et qui est absolument extraordinaire, Gwendoline Amon, Michel Cremades, Régis Laspalès.
En mer, il est extraordinaire, Régis Laspalès.
Ah ben, il s'y croyait. J'ai cru qu'il allait se présenter à la mairie de Vintabrin.
Ça m'étonne pas.
Après, non, il était à fond.
Il y a dû y avoir des bons moments là aussi.
Et puis après Anne-Marie Ponzo et Janine Bissac qui joue Rose. Voilà, pour ne citer que, mais on était une grosse troupe.
Bon, et tous ces beaux enfants, en tout cas, ça c'est des pépites des futurs du cinéma. Et ça c'est chouette de faire découvrir effectivement ces jeunes gens.
Mais vous savez, faire tourner des enfants quand c'est leur premier film, soit ça les traumatise à vie et c'est extrêmement dangereux, soit vous les embarquez, même s'ils continueront pas ce métier, mais au moins à garder un souvenir extrêmement positif. Ils sont petits, hein, ils ont 6 et 9 ans, on peut vite les massacrer. Hein, donc j'ai gardé beaucoup de rapports avec tout le monde et on a vraiment gardé un lien qui est extrêmement douillet.
Sans rien dévoiler de la fin, j'ai trouvé que ça restait quand même ouvert et que selon le succès, est-ce que Sophie t'aurais envie, en tout cas, qu'on retrouve certains de ces personnages et qu'on puisse peut-être avoir une suite un jour?
Pourquoi pas? Moi, j'ai toujours peur des suites parce que je trouve que la singularité d'un film, c'est aussi d'en faire qu'un. Maintenant, les suites, ça devient un petit peu plus commercial, mais pourquoi, je sais pas. On reste ouvert.
Bon, ça c'est bien. Jonathan, toi aussi, tu restes ouvert à une suite éventuelle?
Oui, moi j'aimerais bien, s'il y a une suite, briguer la place de Régis Laspalès et qu'on sort. J'aimerais bien essayer de lui piquer sa place à Régis. Et surtout pour m'engueuler avec Régis, avoir des scènes avec lui. On pourrait bien rigoler, j'ai adoré cette rencontre, comme celle avec Eddie. Et donc voilà, ouais, avec plaisir. Et puis retravailler avec Sophie et avec Alice et toute la bande. Voilà.
On y retourne demain parce que humainement, ça a été quand même des grands moments de grâce.
Et ben, en tout cas, ça se ressent beaucoup à l'écran. Allez voir Un Petit Miracle, ça vient de sortir dans les salles. Sophie Boudou et Jonathan Zakai étaient nos invités. On va se requitter avec un extrait. Et merci encore infiniment à tous les deux d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Notre spécial La Vie d'Amour tout de suite, c'est dans un instant. Alors surtout, ne bougez pas. Et Nola et Louis de la Star Academy également vous attendent. Alors à tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
La Vie, l'Amour tout de suite, c'est le nouveau téléfilm événement d'M6 qui va être diffusé cette semaine. Un téléfilm en plus tourné dans notre région, Nouvelle-Aquitaine, du côté de Royan, en Charente-Maritime précisément. Un film de Nicolas Cuche qu'on a toujours plaisir à recevoir. Et il le sait, c'est un de nos réalisateurs préférés. Il est là avec nous aujourd'hui. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
T'es un habitué maintenant, t'es presque un sociétaire d'émission. Puis une comédienne qu'on adore aussi, voilà, qu'on a plaisir à retrouver aussi, Anne-Marie Vin. Bonjour Anne.
Bonjour.
Qui joue le rôle de la maman, qui joue le rôle de Cathy dans ce film. Et Louis Durand, qui joue le rôle de Ludo. Bonjour Louis.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, tous les trois, pour parler de cette très belle histoire sous fond de mucoviscidose. Nicolas, pourquoi cette histoire? Comment c'est venu? La genèse un peu du projet, raconte-nous.
Le projet est venu de Véronique Marchat, qui est une productrice avec qui j'ai tourné Les Bracelets Rouges, avec qui j'ai l'habitude de travailler, que j'aime beaucoup, qui m'a proposé ce scénario. Et quand je l'ai lu, moi j'avais envie de filmer une histoire d'amour. C'est quelque chose, je disais aux gens, ah j'ai envie de filmer une histoire d'amour, c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Et j'ai vu dans ce scénario la possibilité de filmer une histoire d'amour entre deux adolescents. J'ai vu qu'il y avait ce fil rouge que j'avais envie de tirer dans cette histoire, plus une histoire très forte, avec des personnages extrêmement forts, comme le personnage d'Anne-Marie Vin qui fait la mère de cette fille. Plus, bon, il y a la maladie, il y a la mucoviscidose, mais il y a une énergie vitale dans ce film. C'est pas un film triste sur la maladie, c'est un film au contraire plein d'énergie vitale. Peut-être que si j'ai envie de faire ces films-là, c'est parce que c'est des films qui filent la pêche, paradoxalement. C'est des films qui donnent envie de vivre, c'est des films qui sont plein de vitalité et plein d'énergie. Et c'est ça qui me motivait.
On y suit le parcours de ta fille atteinte de mucoviscidose, qui vit une belle histoire d'amour avec Ludo jusqu'au jour où elle va tomber enceinte. Et évidemment, ce jour-là, on est partagé entre le risque qu'elle prend à mener cette grossesse à terme et d'accoucher en étant atteinte de la mucoviscidose. Et évidemment, cette maman tiraillée par ça, hein, de la laisser aller jusqu'au bout, de la laisser vivre ça jusqu'au bout, il a peur de la perdre, évidemment.
Ouais, c'est plus que ça. Même de toute façon, c'est une maman qui est complètement qui ne vit que dans la terreur depuis l'annonce de la maladie et qui s'est construite comme ça et qui depuis toutes ces années, qui est la capitaine du bateau, au détriment de tous les autres, de sa fille aînée, qui est jouée par Anna Biolay, de son mari, et qui finalement s'est enfermée dans cette terreur, et a fini par devenir une maman extrêmement solitaire. Et évidemment, donc là, l'annonce d'une grossesse, déjà pour n'importe quel parent à l'âge de 16 ans, ça ne réjouit personne, mais en plus de ça, effectivement, pour elle, ça veut dire qu'une seule chose, ça veut dire l'arrêt pendant toute cette grossesse de ces traitements. Ça veut dire beaucoup plus de risques, et c'est inaudible pour elle, absolument inaudible.
C'est ça. Alors Louis, c'est à cause de toi tout ça? C'est à cause de Ludo d'abord?
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, c'est à cause de moi. Ah,
c'est bien, il assume. Hein. Bon, raconte-nous, parlons-nous un peu de Ludo. Qui est-il? Comment tu le définirais, toi?
Ludo, à partir du moment où Julie tombe enceinte, je le trouve un peu naïf. Il mesure la réalité tout en gardant une naïveté.
L'amour, c'est des amoureux, quoi.
Et Julie, donc ma copine dans le film, qui aussi me cache un peu la vérité en disant non, tout va bien aller, il n'y a pas de problème, en ne laissant pas parler les médecins pour pas que j'écoute les risques et tout ça. Donc voilà, il n'est pas totalement au courant non plus du danger, quoi.
Pour explorer cette maladie, est-ce que tu t'es fait conseiller, Nicolas, au niveau de l'écriture? Est-ce que tu as eu des contacts? Je pense à notre ami Pierre Lemarchal, qu'on soutient régulièrement avec son association Grégory Lemarchal. Est-ce que vous avez conversé un petit peu ensemble sur son vécu? Comment ça s'est passé?
Alors, très honnêtement, non. Par contre, tout ce qu'on tourne, toutes les scènes médicales, que ça aille d'un accouchement à la fin, aux scènes où elle est auscultée à l'hôpital, tout ça est fait dans des conditions complètement réelles, avec des gens compétents autour, avec des médecins. C'est souvent des médecins qui jouent leur propre rôle, les obstétriciens qui jouent leur propre rôle. Donc on est donc tout est juste, voilà. Après, il s'est passé quand même une chose assez incroyable sur le film. Je pense qu'on peut le dire parce que Sandy le dit, c'est que l'actrice principale, enfin la celle qui tombe enceinte, Sandy, Julie dans le film, a une sœur qui a 15-16 ans, qui a la mucoviscidose. Donc en fait, il y a eu quelque chose de très étrange dans ce film, en fait.
Un phénomène de résonance, parce qu'elle l'a appris pendant le tournage ou juste avant?
Alors elle savait bien évidemment que sa sœur avait la mucoviscidose, puisque elle vivait chez elle à peu près des choses qui pouvaient être similaires à ce qui se passe dans le film. Donc d'une certaine manière, elle pouvait faire ce film pour sa sœur aussi. Et non, ce qui est fou, c'est que pendant le tournage, suite à des scènes du film qui l'ont interpellée, parce qu'elle a appris des choses sur la maladie en tournant ce film, elle a discuté avec sa mère et elle a appris qu'elle avait le gène elle-même de la mucoviscidose.
Qui n'est pas déclaré, cependant.
Qui n'est pas déclaré, heureusement pour elle.
C'est assez dingue cette histoire, et il est vrai que cette histoire d'amour entre ces deux ados nous emmène, et évidemment cette maman nous embarque aussi dans cette détresse, à la fois parce qu'elle a peur pour sa fille. On sent vraiment cette peur.
Tous les parents, on ne met pas du tout des enfants au monde pour apprendre que potentiellement ils vont ils vont souffrir, et puis surtout ils vont certainement avoir moins d'espérance de vie que nous. C'est absolument c'est trop vertigineux, c'est impossible à accepter. Donc voilà, c'est effectivement l'histoire principalement de Ludo et Julie, et de leur histoire d'amour, et tout ce qu'on est capable de faire
par
à cet âge-là par amour, et tout ce qu'on est capable de déplacer, on n'a pas encore les tenants et les aboutissants de tout ce qui va se passer, et toute la passion qu'on met dedans. Et c'est aussi effectivement l'histoire de parents qui vivent avec une enfant malade. Alors là, c'est la mucoviscidose, mais en fait c'est assez universel, c'est-à-dire du fait que à partir du moment où on a un enfant malade qui donc est élevé avec ce sursis, c'est en ça que j'aime beaucoup le film aussi, c'est qu'est-ce qu'on a droit de vivre. Et donc on a des strates différentes, on a le point de vue parentale, on a elle qui vit au quotidien ça, à qui on a asséné toute son existence, fais attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis il y a ce personnage de Ludo qui, lui, c'est un gamin de 16 ans qui tombe amoureux d'une fille passionnément, et qui se dit ouais, allez banco, c'est la femme de ma vie, et ça sera la femme de ma vie. Et puis à 16 ans, on en est tellement persuadé, de toute façon, qu'il y aura personne d'autre derrière, qu'on y va.
On va terminer par votre scène qui vous a peut-être le plus marqué, Anne.
Oh, il y en a plein. Alors c'est marrant, tout à l'heure on parlait de l'accouchement, qui est une des scènes finales. Elle m'a marqué parce qu'effectivement il s'est passé quelque chose de très bouleversant par rapport à Sandy, qui est une jeune actrice, qui avait peut-être, c'était la peut-être deuxième fois qu'elle tournait, et puis il y a eu quelque chose, voilà. Elle a appréhendé beaucoup la séquence, parce qu'évidemment, elle n'a jamais accouché, qu'elle stressait énormément, et qu'il s'est passé quelque chose de très beau, dans son lâcher-prise. Mais sinon, franchement, il y en a plein des séquences que j'aime énormément, que je trouve très intelligentes, notamment le moment où les deux jeunes nous apprennent, la grossesse. Je l'adore, cette séquence, je la trouve hyper bien filmée, dans les dialogues. C'est à la fois drôle et surprenant.
Oui.
Moi, c'est également ma scène préférée. C'est quand j'apprends à mes beaux-parents la vérité. J'ai adoré la tournée et c'était génial. Sinon, la scène qui m'a le plus impressionné, pareil, hein, c'est le moment de l'accouchement, voir Sandy dans cet état. J'ai même pas eu besoin de jouer. C'était simple. Je suis rentré.
Ça t'a mis en transe aussi.
Ah ouais, c'était vraiment. Elle jouait très bien.
Bon, Nicolas, fier de toute cette équipe?
Ouais, je suis très très fier de toute cette équipe et j'étais impressionné par Anne Marivin parce que non mais c'est vrai parce que je trouve que le rôle tu l'as vraiment transcendé ce rôle et tu lui as donné une palette qui était pas forcément évidente au départ et t'arrives vraiment à retranscrire toute la complexité du personnage et comment tout d'un coup on peut aller très loin dans son côté totalement excessif tout en étant de son côté aussi en permanence et sans la juger en fait et je trouvais ça fort parce que ce personnage il pouvait vite basculer d'un côté, on pouvait vite se la prendre en grippe et en fait arrive à garder ce personnage jusqu'au bout. Et je pense qu'il y avait un test vraiment difficile dans ce film, c'est que tu étais avec des comédiens d'un naturel fou, en réalité tu étais aussi naturel et juste qu'eux, et c'est pas évident.
Je vais tourner qu'avec Nicolas Cuche.
Voilà. Ça ne m'étonne pas.
C'est ce que je dis, c'est pas évident du tout quand t'es avec, parce qu'il y a un côté très naturaliste et très très juste qu'ont amené Sandy les deux, parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils jouent. Donc derrière, si jamais on donne l'impression de jouer, il y a un décalage qui peut vite se créer, qui peut se faire avec beaucoup de comédiens à mon avis. Voilà.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Merci Louis, merci Anne et merci Nicolas pour cette belle histoire qu'on va découvrir sur M6. Et je vous dis à très bientôt. On va se quitter avec la bande-annonce.
Une création exclusive M6.
La première fois qu'on s'est parlé avec Ludo, j'avais 16 ans. J'ai tout de suite su que lui et moi, c'était pour la vie.
Je t'aime.
16 ans, c'est très jeune. Mais quand votre espérance de vie ne dépasse pas 30 ans, 16 ans, c'est déjà la moitié.
Il y a un truc qui va pas chez Julie.
Je suis enceinte.
Mais non.
Si.
C'est une blague. Et c'est pas possible, c'est trop dangereux pour toi.
Toi aussi, tu peux mourir. Papa peut mourir, tout le monde peut mourir.
Et on continue à parler de cette fiction tournée dans notre région. La vie, l'amour, tout de suite après Anne, Louis et Nicolas. On continue à en parler, à accueillir les comédiens de ce très beau film que vous allez découvrir cette semaine sur M6. Avec l'héroïne de ce film, Sandy Afshoni qui est avec nous. Bonjour Sandy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, qui incarne Julie Briand justement. Et celle qui joue le rôle de ta sœur, Anna Biolay. Bonjour Anna.
Bonjour.
Moi Sandy, la première chose que j'ai envie de te demander, comment tu as appréhendé justement ce rôle? Parce que c'est pas si simple que ça pour un comédien d'appréhender un rôle de quelqu'un qui existe. Parce qu'on veut pas trahir souvent, on veut rester fidèle justement à ce qu'il a vécu.
C'est totalement vrai, c'est encore plus stressant qu'un rôle normal. Concernant la maladie, je sais pas si c'est de la chance, mais je l'ai au quotidien vu que ma sœur justement a la mucoviscidose. Donc j'ai pu m'imprégner un peu plus facilement dans le rôle vu que je le vis au quotidien. Donc je connais un peu les circonstances, hôpital, médicaments, aérosol, etc. etc. Mais très stressant de savoir que je dois interpréter quelqu'un d'autre qui existe dans la vraie vie. Donc c'est pas forcément moi et mon côté. Je peux pas donner totalement de ma personne à moi. Je dois quand même me dire je suis Julie Briand et pas quelqu'un qui a été fictif ou quoi que ce soit.
Alors, toi tu joues le rôle d'Amélie, Anna, qui réveille... recèle aussi les secrets. Ça va pas être si facile que ça aussi à dire, à avouer. Vous le découvrirez en regardant évidemment le film. C'est un peu, je vais pas dire l'enfant oublié, mais c'est un peu celle qui passe toujours au second plan par rapport à Julie dans la famille.
Oui, c'est peut-être pas oublié, mais peut-être un petit peu, oui, c'est ça, mis à part. Mais en même temps, quand on a une famille où on a un enfant qui a une maladie chronique, c'est vrai que ça paraît pas étonnant que l'autre puisse être un peu délaissé.
Malgré ce qu'elle ressent, on la sent très attachée à sa sœur, malgré tout.
Oui, Amélie est très très attachée à sa sœur et Julie aussi, mais et heureusement d'ailleurs. Mais je pense que c'est une famille avec des femmes très fortes et un père très fort, et donc il faut qu'elle reste soudée, quoi. Elle tient à sa sœur, elle aime sa sœur. Donc même si c'est dur pour elle, elle passera à sa sœur avant, dans la plupart des cas, je pense.
Il y a une scène particulière que vous retiendrez Alors moi je pensais à la scène de l'accouchement pour toi, Sandy, évidemment, qui a dû être une scène forte en émotion pour toi à vivre.
C'était la scène la plus dure à réaliser. C'était intense et en fait c'est le fait déjà qu'il y avait des conditions très strictes. On ne pouvait pas être toute l'équipe technique dans la salle d'accouchement. C'était très restreint justement pour l'hygiène, etc. Enfin, c'était une vraie salle d'accouchement, c'était une vraie équipe médicale. C'était très stressant, mais je me suis beaucoup sentie dans le personnage. Bah, je pleurais pour de vrai. Donc, franchement, c'était une des pires, mais aussi la meilleure scène que j'ai faite. Enfin, que en tout cas, j'ai ressenti à mille à l'heure, comme dit Julie.
Ouais, c'est vrai, c'est une vie à mille à l'heure pour cette jeune fille atteinte de la mucoviscidose qui va décider, en tout cas pour ceux qui n'étaient pas avec nous il y a quelques instants, mais dans ce film, de croquer la vie à pleines dents, qui va tomber enceinte, qui va vivre une histoire d'amour incroyable avec Ludo, et c'est ce qu'on va suivre dans ce film. Anna, pour toi, est-ce qu'il y a un moment particulier, il y a cette scène que tu as su incarner de façon très drôle, quand t'as personne en face de toi, que t'as plus personne, tout le monde te plante, et puis bah que tu révèles mais en fait t'as personne, quoi?
Oui, c'est ça, elle utilise l'humour pour s'en sortir, parce qu'au fond, sans humour, on fait comment dans la vie, surtout dans des situations aussi difficiles. Oui, moi, ça a été la scène que j'ai préféré faire, parce que on était tous ensemble tout au long de la scène quasiment, et que c'était super de pouvoir travailler tous ensemble, quoi. C'était une expérience que j'oublierai pas.
Voilà. Moi, je vous invite en tout cas à découvrir cette fiction, La vie, l'amour, tout de suite diffusée cette semaine sur M6. On parle de mucoviscidose dans ce film, et on rappelle encore une fois qu'il est important de soutenir la recherche, que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui on peut repousser en tout cas l'espérance de vie de cette maladie. Vous avez les associations Vaincre la mucoviscidose et l'association Grégory Le Marchal qui œuvrent très fortement en tout cas pour que cette maladie soit beaucoup plus vivable pour les patients. Donc voilà, si vous pouvez aider, en tout cas, voilà, chers auditeurs, n'hésitez pas. Merci beaucoup à toutes les deux. Et notre coup de cœur télé cette semaine est consacré aux grands entretiens d'LCP, comme on le fait régulièrement. C'est une nouvelle salve d'entretiens qui arrivera à partir de dimanche à 23h, consacrée à la philosophie du vivant, et qui sera incarnée ce coup-ci par Mazarine Pinjot, qui est avec nous. Bonjour Mazarine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors après avoir été invité de ces grands entretiens, eh bien vous allez passer de l'autre côté du siège pour être l'intervieweur ce coup-ci, et vous allez pouvoir interviewer de nombreux philosophes et maîtres de conférences, notamment avec le premier. Ça sera dimanche à 23h avec Patrice Maniglier, où on va s'interroger notamment sur notre place dans ce monde et avec le réchauffement climatique et tout ce que ça comporte avec. Mais déjà, ça fait quoi de se retrouver du coup de l'autre côté du miroir, Mazarine?
Bah, c'est plutôt agréable, ça fait plus de travail.
Ben oui, j'imagine.
Évidemment, voilà, ça se prépare, puisque c'est bien de connaître quand même l'œuvre de la personne qu'on interviewe. Ça fait partie de l'intérêt du travail aussi. Enfin, c'est ça aussi qui m'intéressait. Et donc, évidemment, quand on est soi-même interviewé, on n'a rien à faire sinon répondre aux questions qui nous sont posées. Donc, évidemment, c'est pas du tout la même position. Mais franchement, c'est assez agréable.
Alors, vous avez travaillé du coup ce sujet-là, la philosophie du vivant. Qu'est-ce qui vous a plu justement dans ce sujet-là qui vous a fait dire oui pour en assurer en tout cas l'animation?
Je pense que la question du vivant, elle est centrale aujourd'hui, et elle est sous-jacente à pas mal de questions, même si on s'en rend pas vraiment compte. Je sais pas, qu'on pense par exemple à tout le débat qu'il va y avoir sur la fin de vie, même la question des retraites, la question de la médecine, les avancées technologiques en termes de médecine, la bioéthique, enfin tout ça, ça relève de la question du vivant, mais on peut aussi aller voir du côté de l'économie, du politique, la question animale, etc. Donc en réalité, le vivant, ça fait le lien entre énormément de questions d'actualité, et je trouve que c'était intéressant de prendre justement l'angle philosophique pour relier un petit peu, pour mettre en évidence le fait que le vivant en réalité est présent, même si on s'en aperçoit pas. Par ailleurs, il y a évidemment la question de la crise climatique qui est centrale et qui est aussi en lien avec le vivant. C'est les raisons pour lesquelles on a choisi cet angle qui me paraissait central et important.
Oui, c'est clair. Premier invité, Patrice Maniglier, donc à 23h dimanche prochain sur LCP. La deuxième invitée, Jocelyne Porcher. Alors, pour Patrice Maniglier, les philosophes et maîtres de conférences en philosophie à l'Université de Paris-Nanterre, Jocelyne Porcher est sociologue à l'INRA. Quels sont les sujets qui sont évoqués du coup avec ces deux invités-là, avec Patrice notamment? Je crois qu'on parle beaucoup de cette crise climatique et de notre place sur cette Terre.
Oui, tout à fait. Patrice Maniglier, c'est quelqu'un qui a un petit peu synthétisé la pensée de Bruno Latour, qui est à la fois complexe et qui a beaucoup écrit. Donc c'est pas mal d'avoir une synthèse extrêmement fine et intelligente. Et donc, en effet, il permet de comprendre l'hypothèse Gaïa, de comprendre ce qu'a développé Bruno Latour, et puis à son tour Patrice Ménilier, puisqu'il a également ajouté ses propres concepts. Et donc il interroge la place que l'homme a dans le monde, le fait que avec la modernité l'homme se soit un peu émancipé de la nature et que ce soit retourné contre elle, et la façon dont on devrait se réinscrire dans un système de relations, puisque tout est lié, et d'autant plus aujourd'hui avec la mondialisation, et comment il faudrait repenser la mondialisation dans un sens vertueux, quoi, en n'oubliant jamais qu'on n'échappe pas à la nature, mais qu'on en fait partie. Donc voilà, il y a toute une réflexion vraiment intéressante sur cette économie de la relation, et je trouve qu'il est assez clair, et ça aussi c'était parmi les choix des invités, ce sont la plupart du temps également des enseignants, donc en général c'est plutôt pédagogues, et c'est important évidemment quand on parle de philo, parce que l'idée c'est pas de faire fuir le public, hein, c'est de rendre la pensée
accessible
à la fois simple, éclairante et accessible, absolument.
Ouais, exactement. Et quand on écoute Patrice Maniglier notamment, moi ce que j'ai aimé, c'est qu'il fait vraiment prendre conscience quelque part qu'on est des locataires en quelque sorte de la planète. Non mais c'est vrai, c'est vraiment ce qu'on ressent au plus profond quand on l'écoute parler.
Oui absolument, et en plus sa pensée est très structurée, donc c'était agréable aussi de discuter avec lui, parce que il y avait un cheminement très très logique et presque mathématique. Ce qui est intéressant, c'est aussi il explique ce que c'est que la philosophie, c'est-à-dire que la philosophie, elle est pas là pour apporter tout de suite des réponses, mais en revanche pour savoir exactement bien poser les problèmes, et c'est un peu ce qui manque aujourd'hui. Les problèmes, d'une certaine manière, on les reçoit tout fait, et puis on cherche à trouver des solutions, mais en réalité il faudrait d'abord arriver à les formuler avant de chercher des solutions, et c'est pour ça que il me semble que la philosophie elle a un rôle à jouer fondamental, y compris politiquement.
Alors la philosophie du vivant, ça sera donc le sujet qui sera évoqué lors de 6 grands entretiens. Les 2 premiers sont diffusés dimanche à 23h avec Patrice Maniglier et Jocelyne Porcher. On aura 2 autres rendez-vous le 12 février également à 23h avec Corinne Peluchon et Emmanuel Ecoccia. Et on aura également 2 autres entretiens le 19 février qui se clôtureront avec votre série de 6 Mazarine avec Olivier Rey et Sophie Nordman, qui seront donc diffusés sur LCP. On va évoquer vos projets. Mazarine, on sait que vous écrivez beaucoup. Il y a peut-être pas mal de choses qui se présentent à l'horizon pour 2023.
Oui, alors j'ai un roman qui va sortir normalement à la rentrée littéraire de septembre 2023.
Ouais.
Une pièce de théâtre aussi qui devrait commencer à être jouée. Alors d'abord à Toulouse, et que j'ai coécrite avec ma cousine Léonie Pinjot, qui est metteur en scène, et qui va faire un petit tour en France avant d'arriver à Paris. Donc voilà, et puis là on a un livre de philosophie pour enfants qui est sorti à Noël, et qu'on accompagne encore un petit peu, et voilà.
C'est très bien tout ça, merci en tout cas Mazarine, et puis on se retrouve donc dimanche à 23h sur LCP pour les 2 premiers numéros de ces grands entretiens que vous animez. À bientôt, et merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
À très vite.
Le vivant étant devenu une notion politique, Mazarine Pinjot reçoit de grands penseurs des enjeux liés à la démocratie, à la préservation de la vie ou du réchauffement climatique.
Est-ce que le philosophe a un rôle à jouer là-dedans, et si oui, lequel ?
Pour aider à compliquer le problème, mais qui est nécessaire parce que, en fait, le vrai problème avec les problèmes, c'est qu'en général, on n'en prend pas la mesure.
La crise que nous traversons aujourd'hui, on le sent bien, appelle à un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une crise très globale.
Attitude. Chers auditeurs, nous allons parler du spectacle mis en scène et conçu par Pierre Marteau, l'un des héros de votre série Plus belle la vidéo Castelli. Eh bien, va se donner en spectacle à partir de mercredi jusqu'à samedi à 19h et dimanche à 15h au 35 rue Léon dans le 18e arrondissement de Paris à la Voir Moderne. Il est là avec nous. Pierre, bonjour. Merci d'être là.
Bonjour Alain. Je vois que tu es très bien informé.
Exactement, c'est au théâtre de Sisyphe que ça va se passer. C'est une production compagnie Pierre Marteau. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu produis des pièces ?
C'est la première fois. Alors, c'est le nom du théâtre où je vais jouer s'appelle Le Lavoir Moderne, et le spectacle s'appelle Le Mythe de Sisyphe. C'est une adaptation d'un texte d'Albert Camus, qui est assez connu, que peut-être certains des auditeurs ont pu découvrir à l'école, enfin au lycée, enfin voilà. Et oui, alors c'est-à-dire que c'est une nouvelle activité. J'ai créé ma compagnie au mois de mai l'année dernière, et c'est mon premier spectacle. Bon, j'ai déjà joué au théâtre évidemment, mais là c'est le premier spectacle de ma compagnie, et je joue, j'en ai initié le projet, et je suis mis en scène par le monsieur qui m'a formé au théâtre et qui a fait de moi l'acteur que je suis aujourd'hui. Ce monsieur s'appelle Jean-Claude Fall. Voilà.
C'est un seul en scène, Pierre ?
Oui, c'est un seul en scène. Moi, ça faisait 20 ans que je voulais faire un seul en scène. Bon, entre-temps, il y a eu Plus belle la vie, je vais pas me plaindre. Hein. J'étais très heureux de jouer dans Plus belle la vie. Et puis, quand j'ai compris qu'on voyait moins mon personnage, et puis, bon, finalement, après, ça s'est... Plus belle la vie s'est complètement arrêté. J'ai eu l'idée de ce projet. Ouais, je suis seul en scène, ça dure 1h20. C'est une relation chaleureuse qui est inégalable, surtout qu'elle se fait là à travers avec un très grand texte, et puis dans un très beau lieu. Ça s'appelle le lavoir moderne, enfin, réellement un ancien lavoir qui a été transformé en théâtre, et les murs ont encore la trace de... C'est un lavoir dont Zola parle dans l'Assommoir, et c'est les murs du théâtre ont encore la trace de cette histoire-là. C'est un lieu, alors c'est à Paris, mais ça pourrait être une salle en Afrique ou en Asie mineure ou enfin ou dans n'importe quelle grande ville, mais un petit théâtre très très charmant et très émouvant parce qu'il transporte comme histoire avec des poutres de bois, des murs un peu abîmés, la peinture et tout ça. C'est très très beau et ça ajoute aussi à la chaleur du moment. Moi, j'ai eu des moments très chaleureux dans Plus belle la vie, c'est à chaque fois qu'on allait en festival. Je t'ai croisé quelques fois, bon, tu as vu, on avait un accueil vraiment, vraiment bouleversant.
C'est clair.
Mais là, c'est différent parce que les gens se taisent au théâtre. Et donc, il y a quelque chose qui se passe, il n'y a que la parole de l'acteur, comme ça, dans les lumières. Il y a quelque chose de très sensible, de très émouvant, de très chaleureux qui passe. Et puis, à la fin du spectacle, ben voilà, on se voit avec les spectateurs et c'est aussi un très bel échange.
Pour ceux qui ne connaissent pas cette œuvre d'Albert Camus, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce mythe de Sisyphe ?
Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ont entendu parler de L'étranger, d'Albert Camus, mais en fait, c'est une pièce, c'est pas une pièce au départ, c'est une œuvre de réflexion. En fait, dans cette œuvre-là, Camus, qui est jeune au moment où il écrit ça, il a même pas 30 ans quand le texte sort, il dit un petit peu ce qu'il pense de la vie. C'est-à-dire, alors, pour aller très vite, il pense que la vie a pas beaucoup de sens. Mais plutôt que de s'attrister de ça, il se dit, ben, comme la vie n'a pas beaucoup de sens, il faut en profiter pour la vivre au maximum, avec le plus d'appétit possible. C'est de la dévorer, il y a un côté fureur de vivre chez Albert Camus. Et alors, ça, dans un premier temps, il y a cette réflexion-là. Et puis, dans un deuxième temps, il prend des exemples de gens qui sont dans un appétit de vie comme ça. Alors, il prend l'homme d'action, celui qui s'engage pour améliorer le sort des gens, l'homme politique engagé mais sincère, hein, pas celui qui va uniquement chercher des voix pour qu'on vote pour lui, celui qui vraiment veut défendre les gens. Il prend aussi l'acteur, il y a des pages sur l'acteur qui sont magnifiques, donc il y a un moment où je joue un acteur sur scène, et puis après il y a l'écrivain. Alors je pense que c'est un moment qui peut être très sensible, très émouvant, très beau, un vrai moment de partage, parce que Albert Camus, c'est un philosophe, mais c'est quelqu'un de très sensible, c'est pas un intellectuel froid, c'est quelqu'un qui s'intéresse de façon très sensible à la vie quotidienne des gens. Et je crois qu'on peut partager là un moment très beau d'expérience humaine, à être ensemble comme ça, partager ce moment-là, je crois que ça peut être très beau.
Oui, et puis, enfin, vous manquez énormément de public, tu dois le voir sur les réseaux, donc vous retrouvez dans d'autres projets, vous retrouvez dans d'autres choses comme ça. Je crois qu'aujourd'hui le public ne demande que ça, voilà, parce qu'aujourd'hui personne vous a oublié, bien au contraire, et on sera toujours là pour tous vos projets. D'ailleurs, la preuve, hein. Mais il est vrai, Pierre, que vous manquez beaucoup au public, et c'est une façon, en tout cas, de pouvoir revenir sur le devant de la scène et pouvoir repartager une autre expérience avec le public, et il y aura donc 5 représentations, ça démarre mercredi, c'est à 19h tous les soirs jusqu'à samedi, et puis dimanche tu joues à 15h, et ça dure 1h20, il reste encore quelques places, et c'est au lavoir moderne parisien que ça se passe.
Tout à fait, j'essaye de monter la tournée du mythe de Sisyphe. Le projet est à son tout début, donc là j'ai des projets avec la Normandie, aussi en Suisse et tout ça, mais il n'y a encore rien de signé, mais par contre je vais faire des stages, je vais organiser des stages de lecture à voix haute, qui sont complémentaires de mon activité au théâtre, et peut-être que je vais faire aussi la télé, j'en sais rien. Là, j'ai eu une proposition pour Netflix, mais j'ai pas pu l'accepter parce que j'étais au théâtre et ça me prenait tout mon temps.
Eh oui, et puis on sait pas ce qui va se passer aussi. On sait qu'il y a tout un collectif qui essaye de relancer Plus belle la vie, et peut-être que la série, on aura le bonheur en tout cas de la voir se relancer. Et ça serait vraiment chouette pour tous les fans qui attendent ça avec impatience. Mais voilà, c'est très difficile aujourd'hui, on le sait, dans le contexte actuel, de pouvoir relancer ce type de fiction à gros budget. Et puis à la fois, voilà, vous êtes tous en train de partir vers des horizons différents. Mais bon, voilà. En tout cas, on espère.
Oui. Mais c'est vrai qu'on a tous un peu nos projets, mais que ce soit à la télévision ou au théâtre, quasiment tous les acteurs de Plus belle la vie sont dans d'autres choses là actuellement. Ça s'est fait pour beaucoup assez vite, mais je crois qu'on est tous, enfin la plupart, la grande majorité d'entre nous en tout cas, sensibles à ce qui est en train de se négocier là avec le collectif 2.0.
Par Florence Demey, qui est le porte-parole, voilà. Qu'on embrasse d'ailleurs, Florence, à qui on souhaite plein de bonnes choses et plein de courage dans cette tâche.
Oui, ils sont très organisés, ils sont très motivés. Et puis alors, il y a des techniciens et des acteurs, parce que Plus belle la vie, c'était une aventure humaine. Je crois que c'est aussi ça que les gens ont vu à l'écran. Le collectif, ça regroupe des acteurs et des techniciens à égalité de pouvoir. Et de projets et d'idées, et c'est très beau quoi, que des gens dont l'entreprise a fermé d'une certaine façon, Plus belle la vie, c'est une entreprise, et ben ils se réunissent pour essayer de faire renaître la chose. Alors, ça va être compliqué, ça va être très difficile parce qu'évidemment il faut de l'argent, c'est un petit peu David contre Goliath, mais peut-être que David va arriver à remonter le projet, et tous les acteurs suivent ça de près.
Et il faut dire aussi que Plus belle la vie a été la première dans son domaine. C'est une phrase qui est souvent revenue quand on a fait notre dernière soirée dans notre région avec une douzaine de comédiens qui étaient là. C'était à jamais les premiers. Et c'est vrai que ça serait encore une fois Plus belle la vie qui serait la première série produite par Inscope. Donc voilà, ça pourrait être vraiment un événement qu'on attend en tout cas avec impatience. Ouais. En attendant, Pierre, on te retrouve dès mercredi à 19h. Il reste encore quelques places. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 19h et dimanche à 15h. Ça s'appelle Le mythe de Sisyphe, d'après le mythe d'Albert Camus aux éditions Gallimard, et c'est au Lavoir Moderne, au 35 rue Léon, dans le 18e arrondissement de Paris, que ça se passe. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec nous en tout cas.
Merci et à très vite.
Et on te dit à très bientôt. Allez, on termine notre émission dans un instant avec Enola et Louis de la Star Academy. Ils nous disent tout sur leur parcours et leurs projets. Alors surtout, ne bougez pas, tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Nos invités aujourd'hui, c'est Enola et Louis qui sont là avec nous, des finalistes de la Star Academy. Quel bonheur de vous avoir. Moi, vous étiez mes chouchous. Alors, je peux vous dire, je ne cache pas mon bonheur de vous avoir avec moi.
Merci beaucoup, on est ravis d'être ici. Merci, merci.
Alors, tous les deux, vous avez fait un parcours sans faute à la Starac. Vous avez été tout de suite aimé, apprécié du public. Comment vous avez expliqué cet attachement aussi rapide et comment vous l'avez vécu, surtout?
Bah, je pense qu'on a surtout été nous-mêmes, profondément nous, profondément alignés avec ce qu'on voulait, c'est-à-dire donner le meilleur de nous, en fait, dans l'aventure. Et en ce moment, on l'explique pas trop, mais en tout cas, on le vit bien.
On ne pouvait pas l'expliquer et on ne pouvait pas non plus le savoir parce qu'on n'avait pas du tout accès aux informations extérieures. Du coup, juste on vivait, on était nous-mêmes, on apprenait, on travaillait et on est fiers et heureux de voir que les gens dehors ont reconnu tout ça chez nous et nous apprécient pour ça.
Quels sont les artistes qui vous ont le plus impressionné dans cette aventure?
Oui. Moi, je sais que personnellement, j'ai eu la chance de chanter avec une de mes idoles, avec Clara Luciani. Du coup, évidemment, j'étais ravie de la rencontrer et de découvrir aussi la personne derrière la chanteuse, en fait, et de voir qu'elle est aussi merveilleuse, en fait, à la télé qu'en vrai. Et pareil, j'ai découvert le groupe iPhone, j'ai découvert Pomme, j'ai découvert plein d'artistes, en fait, sous un autre angle. Et ça me fait d'autant plus aimer leur musique, maintenant que je les connais personnellement.
Pour toi, Enola?
Moi, je pense que c'est mon duo avec Patrick Bruel qui m'a le plus marqué parce que on a vraiment construit le duo ensemble. C'est-à-dire que parfois je voulais mettre certains moments parler ou chanter ou voilà que sais-je, et lui me disait fais plutôt ça là, à cet endroit-là, et je pense que c'est un des seuls avec qui j'ai vraiment construit la chanson. Et puis ce magnifique moment où le public chante à notre place, c'était magique.
Alors vous avez eu une chance assez incroyable. Vous le savez, la saison 8 de la Star Academy s'est faite dans un hôtel particulier à Paris. La saison 9 sur Énergie 12 s'est faite ailleurs. Et vous avez eu la chance de revenir au château. Ça, c'était dingue. Votre arrivée au château, je m'en souviens encore, il a fallu attendre 1h30 du matin, mais c'était assez incroyable de vous voir découvrir ce château.
C'était magique, on en rêvait et on était honorés de pouvoir être les nouveaux châtelains et châtelaines de ce lieu. Et honnêtement, il nous manque un petit peu parfois.
Ouais, on repense à la vie qu'on a eue là-bas et on est un peu nostalgique. Et oui, évidemment, quand on est arrivé, on avait des étoiles dans les yeux et c'était le château qu'il y avait dans la télé, on était dedans et c'était à notre tour et on savait ce qu'il pouvait nous apporter et toute l'aventure incroyable qu'on allait vivre, donc ouais, c'était incroyable.
Alors vu le succès de cette saison, on imagine qu'il va y en avoir une prochaine. Quel conseil vous aimeriez donner aux futurs académiciens?
Alors moi j'ai écrit une lettre carrément.
C'est vrai?
Ouais, où j'ai donné plein de tips, mais surtout avec du recul, là je dirais gérer son temps de récupération. C'est très bien de travailler, et travailler beaucoup pour atteindre ses objectifs, mais il faut pas oublier que le repos c'est aussi, ça fait partie en fait du parcours pour atteindre l'objectif.
C'est le secret de la longévité, Louis?
Moi c'est pas forcément sur le travail ou la récup, c'est plus sur l'humain. Je pense que ils doivent juste apprendre à rester eux-mêmes et pas chercher à correspondre à quelque chose parce qu'ils passent à la télé, changer de personnalité, essayer de devenir star ou de devenir quelqu'un en fait. Juste si vous êtes là, c'est que vous avez été pris pour qui vous êtes et c'est que qui vous êtes c'est bien et il y a un potentiel et ça suffit. Donc restez vous-même, cherchez pas à être un autre et ça suffira et ça vous mènera loin.
Alors dernière question évidemment, c'est sur vos projets futurs. Évidemment, vous allez peut-être pas pouvoir tout nous dire, mais la seule chose que j'ai envie de vous demander, moi, qu'est-ce que ce parcours vous a donné envie de faire par la suite? Qu'est-ce que vous avez envie maintenant? Vous avez envie peut-être de faire du cinéma, on sait pas, hein, ou de faire un album, voilà, quelles sont vos ambitions en tout cas voilà, immédiates là, Louis?
Personnellement, j'ai toujours eu un rêve depuis que je suis tout petit, c'est chanter et faire de la scène. Donc ça n'a fait que renforcer l'idée cette aventure, donc j'ai hâte. Et j'ai envie de faire mon album, j'ai envie de faire une tournée, de faire de la scène, de rencontrer les gens et de partager tout ce que j'ai à partager avec eux. Donc voilà, et le cinéma n'est pas exclu non plus, ça me plaît, c'est tout un milieu qui me plaît, mais je réserve ça pour plus tard. Pour le moment, c'est la musique.
C'est la musique d'abord. Enola ?
Je rejoins pas mal Louis sur le fait de pouvoir partager ses chansons. Ce qu'on ressent, être sur scène, faire vibrer les gens. Moi, j'ai ce parcours de comédie musicale et de théâtre en art dramatique. Donc forcément, le cinéma et puis la comédie musicale, me tendent beaucoup. Mais on verra bien. On verra bien ce qui se présente sur le chemin.
Bon, on sera là pour vous soutenir en tout cas, quoi qu'il en soit. N'hésitez pas à revenir quand vous le voulez. Vous êtes les bienvenus dans Chute, on écoute la télé. Merci à tous les deux. On va se quitter parce que j'ai envie de vous dire, ne partez pas sans moi.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain, ça sera une spéciale Alibi 2. Oui, Philippe Lachaud, Tarek Boudali, Julien Ruti, Elodie Fontan seront nos invités exceptionnels. Deuxième coup de cœur ciné consacré au film Les Têtes Givrées. Stéphane Cazès sera accompagné de Bettina Flender et de Clovis Cornillac qui seront également nos invités exceptionnels. On aura le plaisir de recevoir aussi Gilles Alma pour la sortie de la série L'Abîme qui arrive sur France 2 et Chantal Latsou viendra également nous faire rire évidemment dans l'émission. Alors vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore lundi prochain non plus.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h, sur notre site internet onécoutelatélé.com et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram et applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure, 16h07 pour la dernière quotidienne de la journée.
Chute, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Saintes à Cognac.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie-Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie-Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.